France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction. Et vous, Thomas Cluzel, rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Un terrain d'entente avec la Russie est-il encore possible pour aboutir à un plan de paix en Ukraine? Nous serons à Moscou dès le début du journal pour y vérifier l'impact des mécanismes de propagande qui partout ont réussi à imposer le récit unique du Kremlin. On se rendra par ailleurs à Jérusalem où Benjamin Netanyahou, on le verra, n'a pas l'intention de se laisser gâcher ses ambitions électorales du fait de ses démêlés avec la justice. Et puis l'actualité en France. Nous serons tout d'abord à Saint-Étienne pour la condamnation ce matin du maire de la ville dans l'affaire dite du chantage à la sextape. On parlera budget de la sécu à l'heure où Sébastien Lecornu intensifie les consultations à l'aube d'une semaine déterminante. Enfin, avec notre invité, on évoquera une situation possiblement inédite, la mise sous tutelle d'un département par l'État. Toute la semaine, le va-et-vient diplomatique pour trouver une issue à la guerre en Ukraine va donc se poursuivre avec une nouvelle séquence de tractations dont on voit mal cependant comment elle pourrait aboutir tant les positions des deux belligérants semblent toujours irréconciliables. Ce matin, le président Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris, reçu par Emmanuel Macron. La veille, c'est sous forte pression à la fois militaire et politique que se sont tenues des discussions en Floride entre hauts responsables américains et une délégation ukrainienne, des discussions qualifiées de productives sans pour autant accoucher d'une quelconque annonce majeure. Enfin, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, critiqué pour sa proximité avec les Russes, a prévu lui de s'envoler aujourd'hui pour Moscou. Il devrait y rencontrer demain le président Vladimir Poutine, lequel se montre pour sa part toujours ouvert à un accord, mais uniquement s'il est conclu selon son calendrier et ses conditions. En clair, l'envahisseur veut que soit reconnue sa souveraineté sur les territoires ukrainiens qu'il occupe et ne semble absolument pas disposé à négocier quoi que ce soit. Le tout selon une logique néo-impérialiste que la population semble avoir elle-même parfaitement intégré grâce à une propagande bien rodée, ainsi qu'a pu le vérifier dans les rues de Moscou notre correspondant Sylvain Tronchet.
Vu de Moscou, la question des territoires occupés semble réglée. Entrons dans une grande librairie de la capitale pour acheter une carte de la Russie.
Voici les cartes de la Fédération de Russie. Elles sont avec les nouvelles frontières.
Les cartes en vente dans le pays aujourd'hui incluent les territoires occupés qui sont inscrits dans la constitution russe. Et quand on demande à des Russes dans la rue ce qu'ils pensent des négociations en cours du statut de ces régions, voici le genre de réponse qu'on a.
Le Donbass doit rester russe, oui, il était russe et doit rester russe.
Conséquence d'une propagande incessante. Dans les écoles maternelles, les enfants colorient aujourd'hui des cartes de la Russie avec les territoires ukrainiens. Les nouveaux manuels d'histoire de terminale expliquent que l'Ukraine est un pays artificiel, une idée souvent développée par Vladimir Poutine et reprise là encore dans la rue par Ilya, la soixantaine.
J'ai vécu sous l'Union soviétique. Quand l'URSS existait, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, la Russie a été divisée en 15 républiques et elle est devenue faible. Et maintenant, tout le monde veut la détruire.
Vladimir Poutine l'a admis la semaine dernière. La question de la reconnaissance des territoires occupés sera centrale lors de sa rencontre avec les émissaires américains.
Après plus de 18 années à la tête du gouvernement, et bien que désavoué par une partie de la société avant même l'attaque du 7 octobre, rien ne semble vouloir faire renoncer le Premier ministre israélien à sa soif de pouvoir. Hier, Benjamin Netanyahou, régulièrement entendu dans le cadre d'au moins 3 procédures judiciaires, a lui-même officiellement demandé une grâce présidentielle dans son procès pour corruption. Dans sa lettre, le chef du gouvernement ne reconnaît aucune culpabilité, ni exprime pas le moindre remords et se contente principalement de soutenir qu'une grâce permettrait, je le cite, de guérir les divisions entre les différentes composantes de la nation. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. En l'occurrence, cette grâce, si toutefois bien sûr elle lui était accordée, serait aussi et surtout, Thibault, une aubaine pour Benjamin Netanyahou dans la perspective des prochaines élections législatives.
Oui, l'alternative est simple. Soit la grâce est accordée, Netanyahou en sort grandi et se présente aux prochaines élections prévues à l'automne 2026 en position de rassembleur avec un programme de concorde nationale. Soit elle est refusée et le Premier ministre peut continuer à dénoncer ses opposants, l'État profond et le système qui voudrait sa peau. Stratégie par ailleurs plutôt payante depuis le début de ses ennuis avec la justice il y a plus de 5 ans. Alors la balle est désormais dans le camp du président Isaac Herzog. Herzog qui doit faire face à une situation inédite parce que jamais dans une histoire politico-judiciaire en Israël, une demande de grâce n'a été formulée sans reconnaissance de culpabilité.
Et là, toutes les options, Thibault, sont sur la table.
Oui, le président pourrait par exemple exiger que le Premier ministre quitte la vie politique. C'est par ailleurs la requête formulée par plusieurs figures de l'opposition hier. Il pourrait aussi tout simplement demander la démission de Benjamin Netanyahou tout en lui permettant de se présenter aux prochaines élections. La décision d'Isaac Herzog n'est pas attendue avant plusieurs semaines.
Et puis ce sera ensuite donc à la Cour suprême, la plus haute instance du pays, de se prononcer, c'est bien cela?
Oui, il est difficile d'imaginer que les juges, même les plus conservateurs, valident la grâce sans reconnaissance, même partielle, de culpabilité. Le procès pour corruption et abus de biens sociaux du Premier ministre a repris. Aujourd'hui, personne au tribunal n'a ce matin évoqué cette demande de grâce. Et Benjamin Netanyahou a, comme à quasiment chacune de ses comparutions, sollicité les juges pour un report de la prochaine audience, invoquant la raison d'État.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. C'est une conséquence directe des deux conflits, justement à Gaza et en Ukraine. Les ventes des 100 plus grands fabricants d'armes au monde, majoritairement américains, ont atteint un nouveau record en 2024, en hausse de près de 6% pour un montant total estimé à 679 milliards de dollars.
151 morts, c'est le dernier bilan de l'incendie qui a ravagé la semaine dernière un complexe résidentiel de Hong Kong.
Et l'ampleur de ce sinistre, l'un des plus meurtriers dans le monde de ces dernières décennies, a immédiatement suscité de très nombreux appels à ce que les responsables de cette tragédie rendent des comptes. Au total, une dizaine de personnes a été arrêtées. Sauf que depuis, les autorités ont dû prendre des mesures contre ceux qui propageraient en ligne des informations non vérifiées. C'est le cas en particulier d'un ancien élu local de l'opposition, mais aussi d'un étudiant qui réclamait une enquête indépendante et interpellé pour sédition. Explication sur place de notre correspondante Florence de Changy.
L'arrestation de l'étudiant de 24 ans, Miles Kwan, n'a été ni confirmée ni infirmée par la police, mais comme lui, la pétition qu'il avait mise en ligne a disparu. Elle avait atteint plus de 10 000 signatures en moins d'une journée. L'étudiant avait été interviewé par l'AFP vendredi à la gare de Taipo, ainsi que par plusieurs autres médias, alors qu'il distribuait des tracts avec des amis à tous les gens qui se rendaient sur le site de l'incendie. Dans une vidéo publiée par la page Facebook du site d'information en ligne Hong Kong Free Press, il explique ses motivations.
Bien sûr, nous pensons que toutes nos demandes devraient être autorisées par la loi. Mais si le gouvernement pense que nos quatre demandes, très basiques et fondamentales, dépassent les limites et sont des incitations à la colère et à la haine, ce serait vraiment de la surréaction de leur part.
Ces tracts revendiquaient quatre demandes, dont une enquête indépendante, deux slogans qui rappellent ceux de la vague de manifestations de 2019 qui avait abouti à une reprise en main très sévère par Pékin. Dès samedi, Pékin avait lancé une mise en garde explicite contre toute velléité de la population de Hong Kong de profiter de cet épisode tragique pour relancer des manifestations anti-gouvernementales.
Le bilan des pluies diluviennes accompagnées de crues subites et autres glissements de terrain qui ont frappé et endeuillé ces derniers jours de vastes territoires d'Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie, du Sri Lanka s'est encore alourdi. On parle désormais d'un millier de morts et des centaines de disparus.
Midi et 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Face aux témoignages à charge de ces co-prévenus et surtout un enregistrement accablant, les protestations d'innocence de Gaël Perdriau n'auront pas réussi à convaincre les juges. Ce matin, le maire de Saint-Étienne a été reconnu coupable d'avoir tendu un piège à un rival, ex-premier adjoint, filmé à la caméra cachée en compagnie d'un prostitué, puis contraint à un chantage sous peine de voir cette sextape diffusée. L'édile, aujourd'hui exclu du parti Les Républicains, a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes, de même qu'à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec application immédiate. Compte rendu d'audience ce matin, signé Christophe Vincent.
Le tribunal a retenu l'extrême gravité des faits. Vous encourriez 10 ans en qualité d'élu. Vous aviez un devoir d'exemplarité, de dignité et de représentation. Et la présidente enfonce le clou. Monsieur, vous ne pourrez plus être maire de Saint-Étienne. À la sortie, Gaël Perdriau, livide, semble sonner.
Je vous redis que je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés. Cette décision est incompréhensible. Et bien entendu, j'ai demandé à mes avocats de faire appel immédiatement face à ce que je vis comme une terrible injustice.
Coupable ! Honte à vous !
Le maire s'éloigne dans une ambiance hostile. Arrive son premier adjoint, Gilles Artigue, la victime du chantage, soulagé.
La justice s'est passée. Maintenant, tous les Stéphanois connaissent la vérité des faits et ses conséquences. Ils savent précisément ce que j'ai vécu pendant 10 ans. Et j'espère qu'on pourra tourner cette page. C'est très important pour ma famille et également pour la ville de Saint-Étienne, qui a été, je pense, bien sali pendant tout ce temps. J'ai envisagé de mettre fin à mes jours. Mais bon, aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir me reconstruire.
Avec l'exécution provisoire, comme pour Nicolas Sarkozy, Gaël Perdriau ira en prison. Une nouvelle audience prochaine précisera le jour et le lieu de son incarcération.
Les tractations qui opposent d'un côté la grande distribution en quête de prix compétitifs pour attirer les clients et puis de l'autre l'industrie agroalimentaire invoquant les coûts de production, les besoins d'investissement sont, on le sait, historiquement conflictuels, sauf que cette année, les négociations commerciales entre supermarchés et fournisseurs devraient a priori démarrer dans un contexte cette fois-ci apaisé. Pourquoi ? Puisqu'hier a été signée une charte commune inédite engageant toutes les parties prenantes et censée donc ramener le calme autour de la table.
Difficile d'en dire autant avec les parlementaires, au point de se demander, le gouvernement parviendra-t-il à faire adopter le budget de la sécurité sociale ?
La réponse sera connue au plus tard, le 9 décembre, et d'ici là, le Premier ministre sera une nouvelle fois à la manœuvre toute cette semaine pour d'ultimes tractations. Le projet de loi de financement reviendra en effet demain à l'Assemblée, dont la version transmise par le Sénat, c'est-à-dire assez éloignée en réalité de celle des députés, puisque la Chambre haute a notamment rejeté sa mesure phare, la suspension de la réforme des retraites. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Sébastien Lecornu a donc prévu de multiplier jusqu'au dernier moment les rencontres avec les responsables politiques. Les socialistes sont reçus en ce moment même à Matignon, suivront un peu plus tard les communistes, puis les chefs de groupe. Demain, ce sera au tour des écologistes et mercredi du Rassemblement national, sans oublier les partenaires sociaux. Signe, Stéphane, que le chemin donc pour arracher un compromis reste particulièrement étroit.
Oui, le chemin est étroit parce que de nombreuses mesures que les députés socialistes négocient avec le Premier ministre sont rejetées par la droite républicaine, le groupe dirigé par Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, par Horizon, le parti d'Édouard Philippe, ainsi que par un certain nombre de députés Renaissance, le parti du président. Et donc, plus les socialistes en rajoutent dans leurs exigences, plus les députés des groupes qui soutiennent le gouvernement se montrent réticents sur l'éventualité de voter le texte final. Par exemple, les socialistes réclament l'abandon du doublement des franchises médicales pour les patients qui permettrait au gouvernement de faire 2,8 milliards d'euros d'économies dans le budget de la Sécu. En échange de quoi, pour compenser, il propose d'augmenter la CSG sur les revenus du capital, notamment sur les plans d'épargne logement ou encore les plans d'épargne en action. Mais ça, c'est hors de question pour les députés de la droite républicaine qui refusent catégoriquement d'augmenter les taxes des petits épargnants. On voit donc que les exigences des uns sont les irritants des autres et que les irritants des uns sont les exigences des autres. La difficulté, c'est que pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale le 9 décembre prochain, il faut une majorité, ce qui signifie que les socialistes doivent voter le texte, tout comme les députés du camp présidentiel et ceux de la droite républicaine. Sinon, ça ne marche pas, le PLFSS sera rejeté. D'où l'idée qui recommence à germer d'avoir recours à l'article 49.3, auquel pourtant le Premier ministre a solennellement renoncé, car celui-ci permettrait de faire passer les lois de finances avec simplement l'abstention des socialistes et de la droite républicaine sur la motion de censure qui en découlerait. Mais il est très difficile politiquement pour le Premier ministre de revenir sur cet engagement. Il cherche donc une voie de passage et multiplie une nouvelle fois les entretiens avec les groupes, les partis politiques et les organisations syndicales.
Merci Stéphane Robert.
Signe des difficultés financières que traversent les collectivités, la Gironde, le 6e département le plus peuplé de France, pourrait entrer à partir d'aujourd'hui dans une ère inédite.
Oui, rappelée à l'ordre par la Chambre régionale des comptes, la collectivité doit voter un budget complémentaire à celui déjà voté au mois d'octobre. En clair, la Gironde doit faire des économies de toute urgence, sans quoi la préfecture agite la menace d'une mise sous tutelle de l'État, ce qui, le cas échéant, signifierait que pendant plusieurs années, le département ne serait tout simplement plus seul maître de son destin. Et pour parler de cette situation locale en particulier et au-delà de tout ce qui relève de la fragilité croissante des départements, invité de la rédaction aujourd'hui, Géraldine Chavrier, professeure des universités en droit public à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Ce matin, le Conseil départemental de Gironde doit donc se réunir pour voter un plan d'économie censé rétablir les finances du département. Aujourd'hui, un déficit de 102 millions d'euros et ainsi espérer échapper à la potentielle mise sous tutelle de l'État. Ce plan prévoit des coupes importantes, aussi bien dans le budget de fonctionnement que dans les investissements. Or, cette situation, elle fait écho en réalité aux difficultés plus structurelles des départements dont je crois on estime à 54 le nombre d'entre eux qui seraient en situation de faillite.
Exactement. Alors, faillite peut-être pas, mais le département de la Gironde illustre le glissement des départements. Vous avez 54 départements, soit plus de la moitié, qui sont en difficulté. Et en début d'année, vous en aviez 15 qui étaient vraiment en très grande difficulté, tels que le Nord, le Pas-de-Calais, la Loire-Atlantique, Lyon. Et c'est une situation qui a été soulignée par la Cour des comptes récemment. C'est-à-dire qu'on sait que l'ensemble des départements voient leur situation financière se dégrader et que si l'État ne réagit pas, n'apporte pas une réponse mesurée aux besoins de financement, à l'adaptation de ce financement, ça va continuer.
Alors, pour bien comprendre justement l'état dans lequel se trouvent ces départements, peut-être qu'il faut rappeler que ces collectivités sont donc coincées entre, d'un côté, une hausse des dépenses, disons contrainte, et puis de l'autre, une baisse de leurs recettes. S'agissant peut-être tout d'abord des dépenses, les départements se sont vus confier certaines compétences supplémentaires par l'État au cours des dernières années, sans que celles-ci ne soient compenser, c'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire que si vous évoquez la question de la dépense, 70% des dépenses des départements sont quasi contraintes. Il n'y a presque pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il s'agit de dépenses sociales obligatoires telles que le RSA, le versement du RSA, telles que l'aide aux personnes âgées, telles que l'aide sociale à l'enfance, ou la prime, enfin la compensation du handicap. Et ce sont des dépenses qui sont en augmentation. Vous avez la crise économique qui fait que vous avez plus d'allocataires du RSA et l'État augmente régulièrement, revalorise le RSA. Vous avez un vieillissement de la population qui fait que le versement des aides à l'autonomie sont importants et vous avez une situation de l'enfance qui est très dure avec des enfants qui ont des problèmes psychiatriques ou d'autres qui sont en danger et tous les départements payent très cher désormais d'ailleurs pour l'aide sociale à l'enfance. Donc en fait, on, aujourd'hui, sont les départements qui payent la solidarité nationale puisque vous avez 23 milliards d'euros qui sont pris en charge par le département et qui auraient dû être pris en charge par l'État.
Et puis la deuxième lame donc de cet effet ciseau, ce sont les recettes des départements qui elles aussi ont été fragilisées pendant cette même période.
Alors c'est pas seulement une fragilisation. Il y a deux problèmes. Un problème qui est structurel et qui devra être modifié, c'est que lorsque l'État a transféré les compétences au département, il a compensé financièrement ce transfert à hauteur de ce que lui dépensait à la date à laquelle il exerçait sa compétence. Ce qui veut dire que par exemple le RSA a été transféré en 2000, sauf que nous sommes en 2025, que le nombre d'allocataires a explosé et que l'État revalorise le montant chaque année. Et ça, c'est un reste à charge du département. Et c'est le cas pour les dépenses sociales de façon générale. Face à ça, vous savez que l'État a des difficultés financières, donc on est plutôt sur des baisses de dotation. Mais surtout, la possibilité qu'aurait le département de s'en sortir serait d'utiliser des marges de manœuvre fiscales. Or, on lui a attribué comme financement fiscal tout ce qui est droit de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire les frais de notaire. Or, ce sont des recettes qui sont totalement volatiles. Vous avez vu que le marché de l'immobilier s'est effondré. Donc les départements ont perdu les recettes qui vont avec, alors qu'ils n'ont pas perdu leurs allocataires du RSA, leurs personnes âgées ou leurs enfants en difficulté, pour ne prendre que ces exemples.
Et comment expliquer que cette mécanique dévastatrice ait pu se mettre en place et au-delà, qu'est-ce que cela nous dit aussi de la mise en œuvre de la décentralisation en France?
En fait, le problème de la décentralisation, c'est que finalement, il s'agit beaucoup pour l'État de se décharger de compétences sur les collectivités territoriales. Il n'y gagnerait rien s'il avait une obligation de financement à l'euro près des dépenses des collectivités dans le temps. Donc, en fait, lorsque ces règles ont été posées, il y avait aussi une évidente volonté de responsabiliser les collectivités. Vous êtes supposé gérer mieux que l'État parce qu'en pleine proximité, donc moi, je ne vais pas faire d'efforts. Mais par ailleurs, on le sait, il n'y a pas une décentralisation protégée en France. C'est-à-dire que il n'y a pas de règle constitutionnelle qui protège ni la suffisance des ressources, ni l'autonomie financière des collectivités. Ce qui fait que lorsque l'État est en difficulté, il prend la décision, par la loi, de réduire les financements aux collectivités locales ou de transférer de nouvelles compétences pour se décharger. Et puis, il y a tout ce mouvement de normes extrêmement lourde. C'est-à-dire que tout est compliqué aujourd'hui. L'État pose beaucoup de conditions aux collectivités, donc ça renchérit aussi le coût de l'exercice des compétences.
C'est bien noté. Merci Géraldine Chevrier, professeure des universités en droit public à l'université Panthéon-Sorbonne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. Enfin, c'est une confirmation, tant tout le monde le pressentait, en particulier après que de nombreux auteurs et autrices avaient annoncé leur intention de boycotter Angoulême. L'édition 2026 du Festival de la Bande Dessinée ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées, c'est ce qu'a annoncé ce matin 9e Art Plus, la société organisatrice de l'événement. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une perturbation qui devrait apporter des pluies en Bretagne et sur les côtes de la Manche, au sud et à l'est. En revanche, les éclaircies devraient l'emporter. Quant aux températures, elles seront comprises entre 6 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Axel Dubois à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.